Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Bonjour à tous, Armand Dubois au micro, heureux de vous retrouver encore cette semaine, et cette fois en compagnie d'une pianiste et compositeur, et non la moindre. Au gré du temps, elle a su se tailler une place d'importance dans le monde de la musique jazz. C'est en 1984 que sa carrière prend véritablement son envol, alors qu'elle reçoit le prix Yamaha au Festival international de jazz de Montréal. L'année suivante, son album obtient un Félix à la disque et en 1986, elle remporte aux États-Unis le premier prix de piano au Great Jazz Piano American Competition du Festival de jazz de Jacksonville en Floride. En 2002, le Festival international de jazz de Montréal lui décerne le prix Oscar Peterson. D'autres prix souligneront également son talent. Elle est douée d'une grande versatilité, dois-je dire, musicale et d'un sens créatif exceptionnel. Plusieurs artistes de musique populaire font d'ailleurs appel à cette musicienne de grand talent. Nous accueillons avec plaisir la Reine des Marais. Bonjour à vous.
Bonjour.
Il y avait beaucoup de choses à dire en ce qui vous concerne parce que vous avez une carrière déjà extraordinaire.
En effet, oui, c'est beaucoup de choses. Quand j'entends dire ça ou que je me rappelle tout ça, je me dis « j'ai vraiment fait tout ça, accompli ». Mais je pense qu'il faut voir ça à long terme. C'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Les projets s'enchaînent et puis voilà.
Une façon de vivre, c'est intéressant ce que vous dites parce que Félix Leclerc, qui n'avait rien à l'égard du jazz, disait qu'un piano doit être un ami, c'est-à-dire un confident, apte à essuyer nos rages. Est-ce que c'est le rapport que vous avez avec votre piano?
Oui, des fois, ça peut arriver. Non seulement dans le piano, mais ça se transmet aussi dans l'écriture, hein, dans les compositions. Tout part du piano. C'est certain que les émotions, les états d'âme, tout ça passe par l'instrument. Puis ensuite, ben, ça se transmet à travers soit le trio ou plus récemment le big band.
Ben, parce que vous venez de le dire aussi, vous n'êtes pas qu'une interprète, vous composez.
Oui.
L'album que vous venez tout juste de lancer, qui est encore frais. C'est le 10e, je crois.
C'est le 10e album. C'est mon 10e album en big band. C'est mon premier en big band.
Pas évident de faire du big band?
Non, c'est pas évident pour bien, bien des raisons. Puis ça, c'est un projet de longue date. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai surtout fait des albums en trio, en quatuor, fait d'albums de Noël. J'étais d'ailleurs venue le présenter ici.
Oui.
J'ai fait solo, des trucs comme ça. Et puis, lors d'une tournée en 98 aux États-Unis avec un big band qui s'appelait Diva, un big band new-yorkais, j'interprétais avec eux des pièces standards de jazz américain et j'étais la pianiste attitrée pour cette tournée. Et puis, je me disais toujours, je serais curieuse de pousser l'expérience et de moi-même arranger des pièces de mes compositions pour Big Band, pour voir quelle dimension, quelle dynamique ça prendrait, quelle espèce d'échange entre les musiciens, entre le trio qui existait déjà et tout. Et finalement, il y a environ 4 ans de ça, je me suis décidée. Alors, j'ai dit là, c'est là que ça se passe. J'ai pris quelques mois pour ne faire que ça.
Mais comme un funambule,
oui.
vous avez décidé d'avancer sur le fil de fer parce qu'il y avait quand même un risque d'aller dans cette direction, non?
Ah oui, tout est toujours un risque, mais j'ai l'impression que qu'il risque rien n'a rien, comme
exact.
On dit si bien. Et puis, j'avais quand même des garanties personnelles. Je me disais, c'est sûr que ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'un projet comme ça.
Oui.
Alors, je me suis vraiment... mais totalement investi, écriture, recherche, j'ai écouté des big bands, je me suis inspirée de mentors et des personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont donné des pistes. Je pense à Richard Ferland, je parle à Monsieur Vic Vogel aussi, qui a été quelqu'un de très sympathique, qui me dit toujours, à quoi ça donne si on a des connaissances, puis on ne la transmet pas. Alors, j'ai trouvé ça très chouette de lui.
Autre garantie, c'est la présence de musiciens. musiciens de grand talent qui vous entourent sur cet album.
Oui, tout à fait. Et ça aussi, c'était très important pour moi de travailler avec ces musiciens-là parce que, bon, je les connais la plupart tous. Ce sont des musiciens de ma génération. On a écouté les mêmes disques, les mêmes interprètes. On a une façon de penser qui nous est propre avec notre temps, si on veut. Et puis, il y en a des plus jeunes aussi qui apportent une fraîcheur puis quelque chose d'un élément nouveau, mais qui aussi, maintenant, dans les écoles de jazz, vous apprenez tout ça, là, Coltrane et tout. Hein?
Exact. Alors, histoire de goûter déjà, on commence à entendre les premières notes de New Morning, qui est extrait de cet album. Si vous nous précisiez un peu l'ambiance de cette pièce.
Oui, ben ça, c'est la toute première que j'ai arrangée. C'était une pièce qui était écrite pour un quatuor. Je l'avais interprétée avec Tiger Hoshi et le trio. Et puis, c'est une pièce... Bon, alors, je me suis dit, d'entrer en la matière, je commence avec celle-là parce qu'elle m'inspirait. Et puis, voilà, c'était New Morning. Et puis, c'est le titre d'un endroit à Paris, un club de jazz très, très célèbre à Paris.
Alors, rendez-vous à Paris. Écoutons donc quelques notes de cette belle pièce qui a pour titre New Morning. De retour avec Madame Lorraine Desmarais. Belle pièce, effectivement. Encore une fois, je vais vous dire, en 2009, vendre du Big Band, il fallait le faire parce que j'ai écouté l'album du début jusqu'à la fin et ça s'écoute très bien.
Oui, je suis très heureuse de ça. Ça s'écoute bien, c'est plaisant à jouer, on a du plaisir à jouer.
Quand et chaque... ça se sent, d'ailleurs.
Ça se sent. À chaque fois qu'on répète, les musiciens viennent me voir, « Ah, oh, Lorraine, on est content. » Puis je me dis, « Mon Dieu! » Et moi, de même, je suis honorée de pouvoir jouer. Avec... ce sont des monstres de musiciens, ce sont des exceptionnels, des lecteurs formidables, et des improvisateurs et tout, alors des musiciens de grand talent.
Mais jusque-là, vous aviez toujours réalisé des albums avec des ensembles réduits, si j'ose dire.
Oui.
C'est un rêve que vous vouliez vraiment concrétiser, que d'y aller vers un grand ensemble.
Ah oui, tout à fait.
On y va
parce que, bon, j'avais fait une tournée avec le Diva, comme j'expliquais. Oui. J'ai eu l'occasion de jouer avec d'autres big bands. J'ai joué avec l'ensemble VG de Vancouver, Hugh Fraser, Montréal Jazz Big Band ici à Montréal. Et puis, c'était toujours la même donne. Je me disais, ah, il faut qu'un jour je fasse ce projet-là de mes pièces. Et puis voilà. Mais c'est pas évident, évidemment, de booker un big band parce que c'est beaucoup de gens. Quoique, on va faire un concert bientôt. Je pense que c'est en novembre ici, dans la région. Alors, on a des trucs comme ça, des festivals aussi en 2010, l'an prochain.
Quel est le défi particulier? Parce que vous dites que c'est pas évident de ramasser tous ces gens autour de soi. Mais quand on joue du big band, ça prend évidemment un maître d'œuvre parce qu'il y a des portions d'improvisation, j'imagine,
oui.
Mais il y a aussi des portions qui sont bien standardisées.
Oui.
Comment on fait l'équilibre entre l'un et l'autre?
Oui, ben il faut... Bon, les arrangements, c'est très écrit, là, c'est arrangé, c'est ça. Et puis, particulièrement pour l'album, Écoute, j'avais déjà des enregistrements de situations live, c'est-à-dire en concert. Et puis en concert, bon, on joue plus longtemps, on s'éclate, des solos, il y a une chimie, ça joue et tout et tout. Pour l'album, c'est un format CD, alors je préférais mettre une dizaine de pièces, un peu plus courtes, mais avec un choix de soliste aussi, non seulement pour agrémenter le style de la pièce, mais qui convenait à chaque soliste au caractère de l'instrument et au caractère de la personne qui faisait le solo aussi.
Mais j'imagine qu'il y a quand même différentes possibilités d'exécution à l'égard d'une pièce. Vous parliez de ces solistes, il faut savoir déterminer qui fait quoi.
Oui.
Comment on arrive finalement à faire un rapport consensuel?
Ben, écoutez, moi, je suis vraiment choyée parce que je choisissais selon d'instinct, et puis bon, toi, veux-tu prendre le solo là? Ben tiens, toi, je t'écris. Je pense que c'est ici, j'aimerais que tu fasses un solo dans cette pièce-là. Ah là, j'entends un solo de soprano, Jean-Pierre, veux-tu faire ça? Trompette dans telle autre.
Donc, une grande complicité.
Ah oui, grande complicité, puis ils sont très souples. Ce sont des professionnels, des maîtres dans l'instrument qu'ils maîtrisent, évidemment, qu'ils jouent. Alors, et puis, ils sont dans l'orchestre, et puis ils sont ravis, et puis voilà.
Alors, goûtons ce plaisir. Présentez-nous donc la prochaine pièce de cet album.
Mais c'est bien spécial, la prochaine pièce, Ballade pour Ricky. C'est une pièce originalement qui avait été écrite pour trio. Et je l'avais écrite pour les gens de Rimouski, parce que Ricky est un diminutif de Rimouski. Et puis, j'aime beaucoup les gens là-bas.
D'autant que, je fais juste une parenthèse, mais ce sont de nouveaux auditeurs, puisque maintenant, nous avons une antenne à Rimouski.
Ah, ben je salue les gens de Rimouski. Je les adore, je les embrasse et tout. Alors, c'est ce qui était arrivé en 2003. J'avais l'honneur d'avoir 3 concerts au Festi Jazz de Rimouski. Un concert en big band, un concert avec Alain Caron, je me rappelle, et un trio. Et puis, je m'étais dit, je leur écris une pièce pour les gens là-bas. Alors, j'avais tout fraîchement terminé la pièce la veille ou quelque chose comme ça.
Rapidement, là.
Oui. Alors, les gens sont arrivés et puis j'ai l'air de demander, trouvez-moi un titre, je n'ai pas de titre. Alors, les gens sont venus puis beaucoup disaient, ah, Ballade pour Ricky. Alors, je dis, voilà. Et c'est venu comme ça.
Alors, à tous nos auditeurs du bas du fleuve, on leur dédie cette pièce.
Voilà.
amusante comme pièce tout de même.
Oui.
Avec nous aujourd'hui, Lorraine Desmarais, pianiste et aussi compositeur jazz. Faire carrière comme musicienne et compositeur, ce n'est pas nécessairement facile.
C'est pas évident, mais moi, je dois vous dire que j'ai élargi ma palette. Je suis aussi professeure. J'ai développé au fil des années une façon d'enseigner le piano jazz, une façon de porter ça accessible. J'aime beaucoup le faire aussi. Et puis, je pense qu'avec tout ça, j'ai eu le bonheur de ne faire que du jazz depuis... Bon, je célébrais mon 25e et plus que ça, là, cette année.
Donc, j'avais commencé avant votre naissance.
Ah oui, voilà! Vous êtes gentil, vous! Tout à fait, oui. Oui, quand même, ça fait quand même un bout de temps. Et puis, j'ai eu le bonheur et l'honneur, peut-être, de ne faire que ça pendant toujours, finalement.
Mais vous avez commencé très jeune, à 4 ans, dit-on, c'est exact?
Le piano, j'avais environ 6 ans.
6 ans, alors 2 ans de plus.
Oui, peut-être 5 ans, mais peut-être 4, je ne sais pas, mais j'étais très, très petite. Ça, je suis encore petite, là, remarquez. Mais j'étais très jeune, et puis j'avais des parents qui m'inspiraient beaucoup pour faire ça, qui me disaient, j'avais reçu un piano en jouet. Et puis, c'est avec ça qu'il semblait voir du talent, évidemment. On a tous du talent pour nos parents, mais je pense qu'effectivement, j'avais un talent
naturel.
Mais
ça rappelle l'histoire de Fiston, parce que j'ai un fils à qui j'ai donné un piano en jouet à l'âge de 4 ans, qui aujourd'hui joue du piano.
Ah, ben mon Dieu!
Mais j'allais vous poser la question. Normalement, les enfants commencent l'apprentissage du piano par des musiques dites classiques.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on passe de la musique traditionnelle, disons, la musique jazz, parce que c'est vraiment un autre univers.
Oui. Bien, écoutez, le jazz, c'est l'improvisation, c'est la force dans cette musique-là. Évidemment, il y a eu beaucoup de fusions aujourd'hui, beaucoup de mélanges de styles et tout, mais ce qui reste, c'est l'improvisation. Et moi, j'ai pas de mérite du tout, parce que quand j'étais jeune, 7-8 ans et tout, je prenais des petits cours de piano classique, et puis j'avais une oreille, mais formidable. Alors, tout ce que j'entendais à la radio, je le reproduisais au piano d'oreille.
Puis, vraiment?
Vraiment n'importe quoi. Je jouais n'importe quoi. Puis j'ai eu quand même la chance d'avoir un professeur qui était très ouverte. Alors, elle disait, bon, là, tu apprends ta petite sonate de Mozart, puis après ça, tu pourras faire une composition. Alors, yeah! Je prenais mon morceau de Mozart très rapidement pour pouvoir faire une composition après.
Je souris parce que j'ai l'impression d'entendre l'histoire de Fiston, mais ça, c'est vraiment personnel.
Oui, mais c'est... Oui, tout à fait. Alors, c'est ça a commencé comme ça. Et puis, ce professeur-là était très, très ouverte. Et puis, elle m'expliquait l'harmonie, puis les accords et tout. Puis, elle m'encourageait surtout beaucoup, beaucoup à faire ça. Alors, j'ai grandi là-dedans. Et quand j'ai découvert le jazz par le biais de Oscar Peterson, Chick Corea, là, j'étais impressionnée parce que je terminais une maîtrise en piano classique un petit peu avant ça. Alors, l'aspect technique de l'instrument m'intéressait beaucoup. Puis, quand on a 20 ans, on veut jouer vite puis on veut faire plein de choses comme ça.
Simple curiosité, est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer Oscar Peterson avant qu'il décède, oui?
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. La dernière fois, c'était quand il a fait un duo avec Oliver Jones.
Qui était aussi son ému, en quelque
voilà.
sorte. Ouais.
Voilà, voilà. Je les avais devant moi tous les deux. Alors,
un privilège extraordinaire.
Extraordinaire, oui. Deux géants, oui.
Alors, on va rester dans le monde du jazz, mais on va élargir avec la voix. Une interprétation d'une pièce, dit-on, c'est celle qui est le plus enregistrée. Le nombre de versions de cette pièce de Gershwin... on ne les compte plus tellement il y en a. C'est probablement la pièce qui évoque le mieux l'ensemble jazz au sens le plus large. C'est « Summertime ». On va entendre l'interprétation d'une dame qui a pour nom Sheila Landis. Et vous allez voir, c'est très moderne, c'est très jazzé et c'est à la fois très surprenant.
Sometime in the living is easy. Fish
De retour pour cette deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Mme Lorraine Desmarais, cette grande pianiste et compositeur jazz. Nous parlions en première partie d'émission de cet apprentissage de la musique. Un auteur ou un musicien que vous connaissez probablement très bien, qui a pour nom Miles Davis, a dit un jour à l'égard des pianistes jazz: pourquoi jouer tant de notes alors qu'il suffit de jouer les meilleures?
Oui, tout à fait. Et ça, c'est un point... Bon, c'était un trompettiste, évidemment. Les pianistes, nous, on joue toujours plein de notes parce que, bon, on n'a pas... on n'est pas des souffleurs, on respire, mais on respire souvent pas assez, là, remarquez?
Oui.
Et puis, j'ai découvert ça en écrivant justement pour le Big Band. Et ce qui arrive, c'est qu'en tant que pianiste, quand on fait nos premières expériences d'écriture comme ça, ben on en met, puis on a une écriture plutôt chargée. J'écoutais Maria Schneider qui disait un peu la même chose, et c'est un peu un phénomène qui se répète, on veut écrire plein de choses. Alors, étant pianiste, des fois, on se dit, bon, des notes, mais c'est pas nécessaire, parce qu'il faut penser que ce sont des souffleurs, c'est une autre technique, les lèvres et tout. Alors, j'ai appris à respirer, à écrire pour des trompettes,
Est-ce que je me trompe en vous entendant? On comparait tantôt musique classique, musique jazz. Mm-hmm. Quand on associe la musique classique à la musique, on pense tout de suite à la mélodie. Quand on pense à la musique jazz, on pense au rythme. Est-ce que l'apprentissage fait en sorte que c'est différent aussi quand on passe du classique au jazz? Est-ce qu'il faut avoir une maîtrise plus grande, non pas de la mélodie, mais du rythme?
C'est un peu plus complexe, puis quand on fait de la musique classique, qu'on interprète de la musique classique, bon, c'est écrit, c'est quelque chose qui est établi, qui est sur papier, on respecte le texte, évidemment, c'est le compositeur.
Mm-hmm.
Pardon. La musique jazz, il faut faire le maximum avec rien, ou le minimum avec rien. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'intervention spontanée. Si on parle de rythme, souvent, c'est quand, par exemple, pour les pianistes, c'est quand on va accompagner un soliste, par exemple. Alors, on va accompagner d'une façon syncopée, justement, pour maintenir cette pulsation rythmique-là, qui est souvent établie par la batterie, par la contrebasse, dans un jazz plus traditionnel.
Donc, apprendre, comme vous le disiez, à respirer.
Oui, tout à fait.
À respecter les silences.
Oui, puis en en mettre des silences.
Oui.
En en mettre. Thelonious Monk était un pianiste maître dans ce,
ah oui?
dans ce sens.
Ben, je reviens avec Miles Davis qui disait aussi que la véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer le silence.
Oui.
Et vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Les silences sont aussi importants que les notes.
Alors, un qui avait parfois de longs silences... C'est Frank Sinatra qui avait une façon bien particulière, vous le savez, de chanter et qui a fait aussi quelques pointes dans le domaine du jazz.
Oui.
Et dans le domaine aussi de la musique, peut-on dire, latine.
Mm-hmm.
On connaît tous Antonio Carlos Jobim, qui a été le maître à une certaine époque, non pas de la salsa, mais on disait...
Des bossa nova. Oui, oh oui.
Alors, une de ses pièces merveilleuses, c'est Corcovado. Vous connaissez cette pièce?
C'est magnifique, ça. Quiet Nights and Quiet Stars. Ça, c'est fantastique.
Juste un peu d'histoire, parce que ça a été connu d'abord sous le nom de Corcovado. Au Brésil, c'est la colline de Rio de Janeiro, au sommet duquel se dresse la statue du Christ Rédempteur.
Oh!
Oui, c'est l'une des plus grandes statues du genre au monde, à une altitude de 710 mètres. La statue mesure 38 mètres de haut. Son poids est de plus de 1000 tonnes.
Mm.
On connaît tous, on a tous en tête cette statue du Christ. Il faudra même 5 ans pour la construire, soit de 1926 à 1931. Elle est classée monument historique depuis 1973. On dit que le Christ du Corcovado est l'un des endroits touristiques les plus fréquentés annuellement, avec plus de 600 000 visiteurs. Et c'est Corcovado, cette histoire simple que je viens de vous raconter, qui a inspiré l'écriture de cette chanson fort populaire, écrite par Antonio Carlos Jobim, et qui cette fois est interprétée par Frank Sinatra, qui est devenu, comme vous disiez si bien en anglais,
Quiet Nights of Quiet Stars.
Frank Sinatra.
Oh oui.
Quiet Nights of Quiet Stars, Quiet Chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking looking on the mountains and the sea, how lovely. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, my love. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love.
Vous aimez ce rythme bossa nova, Madame Desmarais?
Oui, oui, j'aime cette couleur, ce rythme, cette espèce de fraîcheur, cette espèce de spontanéité qu'il y a là-dedans. Les bossa nova chantés, là, les paroles sont toujours magnifiques. J'aime bien.
Je vous pose cette question parce que dans votre, sur votre album, le dernier, vous avez aussi poussé une pointe de ce côté, n'est-ce
oui,
pas?
Oui, oui, oui. Voilà, ça, c'est la samba.
Oui.
Ça, c'est un petit peu plus animé, là.
Oui. Qu'est-ce que ça a de particulier? Quand on parle de musique latine, c'en est une, les samba, les bossa nova, le tango même, à la limite, en Argentine, qui a un rythme très sensuel
tout
aussi.
Tout à fait, oui, je peux vous en parler de ça.
Ah oui, mais parlez-moi donc.
Mais je danse maintenant le tango depuis environ un an. Ça va faire presque 2 ans.
Un autre apprentissage.
Oh, quel bonheur, quelle chose merveilleuse dans ma vie aussi. C'est tout à fait sublime, cette danse. Très, très difficile, le tango argentin, mais la musique qui est magnifique. C'est très, très inspirant.
Est-ce que ça va vous donner quelques idées pour le prochain d'autres albums?
Ben, écoutez, c'est...
On a peut-être une rue.
On a peut-être une piste, là. On a peut-être une piste. Ben, pour l'instant, je le danse, j'apprends, et puis je me plais vraiment beaucoup dans ça. Je trouve que c'est... Pour le cœur, pour le corps, pour les rencontres, pour la musique, je souhaite ça à beaucoup de gens. Il y a une belle communauté de tango aussi à Montréal.
En primeur, donc, on apprend peut-être aujourd'hui que sur le prochain album de Lorraine Desmarais, il y aura peut-être au moins un tango.
Ça, on sait jamais.
Vous voulez pas vous commettre encore.
Ça se pourrait bien.
Ça m'amène à vous demander, parce qu'on parlait de musique latine, est-ce que vous écoutez vous-même beaucoup de musique?
Oui, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute de tout. Autant, j'aime beaucoup les symphonies, musique symphonique. J'écoute des big bands plus modernes aussi. Par exemple, je parlais de Michael Brecker, son dernier Kundetect. Je pense que c'est un album génial. Il y a des instruments, c'est pas le big band traditionnel, là, classique. Des choses magnifiques là-dedans. J'aime écouter les pianistes français, italiens, Bolani,
Stefano, oui.
Ah oh, oui, Jean-Michel Pilk aussi pour son humour dans son piano jazz. Je suis très ouverte, j'aime beaucoup.
Le jazz des années 50, Saint-Germain-des-Prés, Boris Vian, par exemple.
Oui.
Ça a une couleur,
Vian.
Ça aussi.
J'aime ça, Boris Vian, j'aime ça. J'ai accompagné des chanteurs, chanteuses, et puis souvent, ils avaient ça à leur répertoire, et puis il y a quelque chose là-dedans de... les paroles. Non, c'est intéressant.
Oui, on les imagine au coin d'un café, avec un train de griller des cigarettes.
Oui, c'est typique, là.
Intellectuel un peu, avec des volumes et tout le reste.
Oui, tout à fait.
Mais revenons en Amérique latine, revenons à votre samba à vous, que vous avez imaginé au coin d'une table, au coin d'un café, ou comment, en dansant le tango?
Non, ça date, cette pièce-là. L'arrangement est récent, évidemment. Je peux pas vous... C'est difficile de vous décrire le processus. Bon, c'est que je me lève un matin, je dis j'écris une samba. Alors, j'ai la rythmique. Ça peut partir d'une trame, d'une mélodie. Ensuite, je vais harmoniser. Ou ça peut partir d'une progression d'accords. Ensuite, une mélodie me vient. Ou ça peut tout simplement partir d'une improvisation. Et puis là, je vais épurer, puis je vais garder les meilleures notes pour la mélodie.
Et on les entend déjà, ouais. Ces notes qui sont déjà très rythmées, oui. Dès le départ de la pièce,
oui.
D'ailleurs.
Oui, puis je pense aussi, quand j'écris du matériel, bon, trio ou des trucs comme ça, j'essaie toujours de m'imaginer aussi l'auditeur, soit en concert, soit s'il écoute le CD, j'essaie d'avoir une palette assez élargie de ce que je vais faire sur l'album.
Alors, Samba, ouais. Avec la Reine des Marais.
Thank you.
C'est une couleur très, très jolie, différente de ce qu'on a entendu. Ce n'est pas la balade pour Ricky.
Non,
pas
non,
du tout, pas mais ça tout. Reste quand même oui. un big band.
Oui.
Et
oui.
c'est ça la caractéristique, je dirais, fondamentale de cet album, c'est qu'on reste toujours dans l'univers du big band, mais avec des couleurs, des sonorités qui sont vraiment différentes d'une pièce à l'autre.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est ce comme je vous disais, j'aime avoir un éventail assez large de styles, qu'il y ait des contrastes, que ça soit contrastant. Et puis, je me dis toujours, une samba en diablé, si j'écoute une ballade ensuite, va toujours faire paraître la ballade calme, encore plus pacifique. Et ensuite, après une ballade, ben, je vais aimer entendre quelque chose de plus up-tempo, un swing, un truc comme ça.
Est-ce que Lorraine Desmarais pourrait vivre sans musique?
Oh, ça serait difficile. Ça serait... j'ai jamais pensé, imaginé. Mais je dois vous avouer qu'il y a certains moments où il n'y a rien. J'aime être à la maison et puis écouter le silence. Vous savez, les silences de ce que vous parliez tantôt, oui. c'est aussi important pour moi, les silences.
Alors, la vie oui. intérieure, c'est important pour vous?
Énormément. Spiritualité, c'est important. Le recueillement, la vie intérieure, le ressourcement, le calme, c'est très important pour moi.
On dit souvent, bon, quand on parle de musique classique, on évoque souvent Bach ou Mozart, qui sont presque des créations de Dieu, tellement leur
oui.
musique est... Inouï.
Oui.
Au plan de la musique rythmée, c'est rare qu'on va évoquer qu'un pianiste jazz ou qu'un saxophoniste est une création de Dieu. Et pourtant, là aussi, il y a des merveilles.
Absolument. Souvent, ils disent création du diable.
Oui. Comment on explique ça? Parce que vous-même, vous le dites, il y a une relation très importante entre vous et votre piano, entre vous et les musiciens, mais entre vous et vous-même aussi.
Oui, mais il y a une très grande spiritualité aussi pour le jazz. Je pense à Coltrane. Il a fait des albums là, avec des termes comme ça, spiritualité, des choses comme ça. Alors, oui, et la musique gospel, qui est très voisine, qui est une musique très religieuse aussi. Ouais. Alors, vous écoutez une chorale de gospel, c'est le ciel.
Et sans compter que le jazz est ouais. aussi né du monde des esclaves,
oui.
qui avait besoin, qui était en quête
oui.
d'une vie meilleure.
Oui,
et
tout à
qui
fait.
Exorcisait en fait leur douleur par la musique.
Oui, tout à fait. Une thérapie.
Une thérapie.
C'est une thérapie. Je vous dirais, bon, pour moi, c'est ma vie, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est ma façon de vivre et tout. Je vous dirais que si j'ai besoin parfois d'une thérapie, je vais aller peindre certaines choses. J'appelle ça des choses, là.
Oui.
Mais pour moi, je n'ai aucune attente, ça m'apporte un certain apaisement, quelque chose d'autre.
Revenons à la musique. Une autre grande interprète jazz, cette Canadienne qui est née à Nanaimo, c'est ça, en Colombie-Britannique, qui a appris, elle, à jouer très jeune comme vous, du piano, qui est même allée poursuivre son art à Boston, son apprentissage, dit-on. Et c'est en 1993, lorsqu'elle a sorti son premier album, Stepping Out, qu'elle est devenue très rapidement celle que nous connaissons maintenant et qui a connu le succès phénoménal, celui qui lui a même... qui l'a amené à faire des tournées avec Tony Bennett, dit-on. Mm. Elle nous interprète un classique d'Irving Berlin. On parle de Best Thing for You. On parle bien sûr de Diana Krall.
Oui.
Est-ce que vous l'avez rencontrée, elle aussi?
Je crois même lui avoir donné un cours de piano il y a très, très longtemps.
Alors maintenant, on comprend.
Oui, écoutez, mais j'ai maintenant... aucun mérite, mais non, je retire ce que j'ai dit. C'était plutôt une rencontre.
Non, mais là, j'allais et dire, puis... on comprend pourquoi Diana Krall est si bonne.
Oh là là! Non, mais on s'était rencontrés, je pense que c'était à Vancouver, et puis on avait jammé un peu au piano, là, puis on s'était... Il y a longtemps de ça. Là.
On va y revenir. Connu. Alors ouais. écoutons donc... Comment ouais. maintenant elle a appris de vous?
Ah, mon Dieu!
I only want what's the best thing for you, and the best thing for you would be me. I've been convinced after thinking it through that the best thing for you would be me. day. To myself I say, point the way, what would it be? I ask myself, what's the best thing for you and myself? And I seem to agree that the best thing for you would be me. What's the best thing for you and myself? And I seem to agree that the best thing for you would be me.
Best thing for you,
oui.
Diana Krall.
Oui.
Effectivement, j'allais le mentionner, ils ne sont pas très nombreux, les gens en provenance du Canada, qui ont fait des carrières phénoménales au plan de la musique jazz. Mais depuis quelques années, bon, il y a vous, il y a eu Oscar Peterson, bien sûr, Oliver Jones, Diana Krall. On a l'impression que ça commence, là, vraiment.
Oui.
On commence à marquer des points au plan de la musique populaire jazz.
Oui, il faut perpétuer ça aussi. L'été dernier, j'étais justement au Festival de jazz. Et puis, il y a la nouvelle maison du jazz, là, qui a été inaugurée et tout et tout. Et puis, on se promet d'avoir du jazz à l'année, des trucs comme ça. Et c'est justement dans des créneaux comme ça, c'est ça qui permet de... d'amener le public, parce que c'est sûr que s'il n'y a pas de public, il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de...
Voilà, mais ça prend des pionniers. Vous mentionniez un peu début d'émission Vic Vogel,
qui a été vraiment un
défricheur,
oui.
Parce qu'il a souvent joué, j'allais dire, presque dans le désert,
mm-hmm.
mais il y croyait vraiment.
Oui, tout à fait.
Quand il a joué avec le Willemar Blues Band,
oui.
c'était carrément nouveau. On ouvrait des voies qui étaient inexplorées jusque-là.
Oui, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il faut encore défricher dans ce domaine?
Toujours.
Toujours.
Toujours. Il faut repenser la façon de faire. Il faut ouvrir des portes, associer avec des gens. Il y a quelques années, pas très longtemps de ça, j'avais fait une collaboration avec Ariane Moffat. Et puis, elle a étudié au Collège Saint-Laurent et puis elle était très, très douée. Et puis... Eh bien, on a eu le bonheur de collaborer ensemble. J'ai écrit des musiques sur des textes d'Ariane. Et il y avait cette couleur jazz un petit peu fusionnée avec la couleur pop.
Oui.
Alors, je pense que c'est ça qui... C'est des défis, ça,
oui,
pour nous, des créateurs, que pour les gens qui entendent ça.
Et cette mixité, elle est de plus en plus présente.
Oui.
Vous avez collaboré avec Michel Rivard,
oui.
Jim Corcoran.
Oui, tout à fait.
Il y en a d'autres aussi.
Il y en a d'autres, Sylvain Cossette,
oui.
Le temps des émissions. C'était
Bruno Pelletier aussi.
L'an dernier, j'ai joué une pièce avec Martin Deschamps sur son album Piano et la voix. Voilà, c'est ça. C'est une certaine ouverture d'esprit.
On sent que la musique, elle est universelle.
Oui, tout à fait.
Tony Bennett dirait que life is a song.
Life is a song. Ah, tout à fait. Si c'est Tony Bennett qui le dit, là.
Life is a song, let's sing it together. Let's take our hearts and dip them in rhyme.
Let's learn the words, let's learn the music together, hoping the song lasts for a long, long time. Life is a song that goes on forever. Love's old refrain can never go wrong. Let's strike the note Mendelssohn wrote concerning spring weather. Let's sing it together and make life a song. Strike the note Mendelssohn wrote concerning spring weather. Let's sing it together and make life a song.
C'est une belle chanson, presque éternelle, que cette chanson.
C'est magnifique. Tony Bennett a une voix et un charisme, puis une façon de... C'est chaleureux, ça se fusionne bien avec la musique. Je pense que c'est très beau.
80-quelques années et plus, et il chante toujours avec une voix extraordinaire.
Moi, ça m'impressionne toujours. Ces musiciens-là, tu sais, on regardait Oscar Peterson, Oliver Jones, je ne sais pas, si je l'écoutais au festival l'année dernière. J'ai eu le bonheur de l'avoir avec moi sur mon spectacle l'été passé, en juillet, au festival de jazz, qui est venu jouer quelques pièces avec le Big Band, justement. Alors, c'était... Puis, je le regarde, et puis il joue, lui, depuis 3 ans, je pense. Puis, il est d'une forme au piano exceptionnel. Je me dis, bon, j'espère que je vais être capable de garder cette forme-là.
On vous le souhaite. Votre destination bonheur, Mme Desmarais, quelle serait-elle?
Ma destination bonheur, j'aime beaucoup Paris. C'est le bonheur total.
Ah, et des projets plein la tête, je
plein la tête de l'écriture. Ça n'arrête pas.
Ben écoutez, d'abord, on va souhaiter que ce 10e album soit écouté par le plus grand nombre.
Oui, on
Quel est le titre de cet album?
Big Band. Lorraine Desmarais, Big Band.
Tout simplement.
Pas très original, mais enfin.
Mais ça dit tout
ça
ce que
dit
ça veut dire.
Ça dit tout ce que ça veut dire. Voilà.
Et c'est surtout un album extraordinaire à écouter parce que, comme je le mentionnais, ça s'écoute du début jusqu'à la fin avec des sonorités ayant des couleurs vraiment différentes. Bravo pour ce merveilleux travail.
Merci.
Et merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes où on a peut-être un peu mieux compris pourquoi Diana Krall est si populaire.
Oh là 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 là.
Bon succès, Madame Desmarais,
merci.
Pour la suite des choses.
Merci beaucoup.
C'était l'émission Au gré du temps, Armand Dubois au micro. Nous recevions aujourd'hui Madame Lorraine Desmarais. Cette émission s'est réalisée sous la supervision de Nikolaï Diouchkin. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au plaisir. Au revoir et écoutez beaucoup de musique.